Messieurs, dames, bonjour. Elle court, la rumeur. On évoque tantôt un phénomène de masse, tantôt un concept nouveau, un souffle qui balayerait aujourd'hui la France. Bon, j'en fais peut-être un peu trop, mais ça me fait plaisir. Et oui, Estivalitude existe. C'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Sarah Chiche, vous êtes psychanalyste mais aussi romancière et votre dernier livre, Charnel et acharné, se nomme Les Enténébrés. Bonjour Sarah Chiche.
Bonjour.
Alex Baupin, chanteur, compositeur et interprète, vous ciselez loin des modes une œuvre marquée par ce que j'appelle, moi c'est mon goût, c'est personnel, une certaine mélancolie. J'en veux pour preuve votre nouveau titre, Cours camarade. Bonjour Alex Baupin.
Bonjour.
Suivez mon regard. Ce matin, Sarah Chiche convoque les fantômes du passé, tandis qu'Alex Baupin s'écrit « Cours camarade, le vieux monde est devant toi ». Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Alex Baupin, vous aviez déjà entendu parler d'une romancière nommée Sarah Chiche ?
Alors un peu. Et puis quand vous m'avez gentiment invité ici, j'ai parlé à mon amie Isabelle Monin, qui est également romancière.
Ouais.
Et il y a 3 jours, je lui dis, je suis invité avec une romancière qui s'appelle Sarah Chiche, qu'est-ce que tu en penses ? Elle m'a dit que son livre, Les Enténébrés, je le dis vraiment, tout est vrai. Et un des livres qui l'a plus impressionné de l'année. Donc je l'ai acheté, je suis dedans en fait, je suis en train
vous
de le lire.
Vous êtes en train de le lire, vous avez vu que c'est
dedans.
Un livre touffu.
Oui.
Quand je disais charnel, hein, et acharné, hein, c'est un peu ça, en fait, comme ça qu'on le ressent.
Et assez impressionnant, enfin moi je suis assez impressionné. Enfin, j'en ai déjà parlé évidemment, c'est un petit peu parlé avant, mais voilà. Je suis en plein milieu, donc je peux pas en dire beaucoup plus, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est un livre que je vais finir, et c'est pas toujours le cas.
Bon, bah tant mieux, vous suivez tous ces récits qui s'entremêlent, un peu comme notre émission aujourd'hui. Sarah Chiche, vous écoutez Alex Baupin ?
Oh oui.
Oh oui, vous connaissez bien son travail.
Il y a une mélancolie qui sourd, qui sointe de ses chansons à laquelle je suis extrêmement sensible. Je crois que notamment les voix-là, c'est peut-être ce que j'ai entendu de plus beau et de plus essentiel sur ce qu'est la perte des parents et le fait de pouvoir continuer à vivre et aimer la vie malgré tout.
Ce en quoi vous êtes complètement en phase, parce que votre livre Les Enténébrés, c'est justement là-dessus, sur le rapport à ses parents difficiles, sur cette terrible filiation qui est la vôtre. Alex Baupin, vous lisez quoi ? En général,
un peu de tout. Beaucoup de biographies avant le livre de Sarah. La dernière chose que j'ai lue, c'est une autobiographie de Jean Tierney qui s'appelle Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma. Et un peu de tout. J'ai eu tendance à un moment donné à lire beaucoup de littérature américaine traduite parce que je lis pas dans le texte. Et je me suis forcé il y a 3-4 ans parce que j'ai des amis romanciers français à racheter des livres français. Voilà.
Donc vous lisez un peu, vous lisez la nouvelle littérature, comme on dit, vous ne vous contentez pas
on
des classiques.
On appelle ça la nouvelle littérature.
Oui, bah, les nouveautés, vous savez, il y a toujours le... Est-ce que je lis Stendhal ou est-ce que je lis Sarah Chiche ? Il y a toujours le gros débat.
Alors j'ai plus que tendance à lire Sarah Chiche, si c'est le débat.
Et vous, Sarah Chiche, vous écoutez quoi comme musique ? À part Alex Baupin.
Oui, j'écoute, j'aime beaucoup la chanson française à texte. J'ai très longtemps écouté Barbara et Brel et je les ai tellement écoutés que maintenant je ne peux plus le faire. Sinon, j'aime beaucoup aussi Cassius, voilà, la French Touch, l'électro, ou bien aussi des choses beaucoup plus années 60 et 70, comme les Doors, par exemple.
Alors, votre livre, Les Enténébrés, c'est un livre, je disais, charnel, rude, c'est une plongée à la fois dans votre histoire personnelle, on imagine, si tant est que c'est vous le personnage principal du livre, il y a toujours un doute, bien sûr, et puis aussi une plongée dans le siècle passé. Nous sommes tous des enténébrés, selon vous, alourdis par les chaos de la vie ou finalement ou de notre provenance.
Oui, ce que je voulais tenter de tracer, de dessiner, c'est peut-être le long rêve d'un climat où tout brûle, c'est-à-dire ce monde que nous connaissons, ravagé par le réchauffement climatique, la violence sociale, et dans cet embrasement généralisé, les cœurs brûlent aussi. Alors au départ, il y a l'histoire d'une femme qui se rend à Vienne et à la suite d'une nuit sans sommeil, et ben alors qu'elle mène en France une vie relativement heureuse avec un homme avec qui elle a un enfant, et bien elle tombe littéralement en amour pour un autre homme qu'elle rencontre dans un musée.
Plus âgé qu'elle.
Oui, infiniment plus âgé, mais avec cette idée que l'amour, c'est un scandale sans sexe ni âge. Et au fond, quand cela vous foudroie, toutes ces coordonnées-là ont peu d'importance. Et ces prétextes à raconter une série d'histoires où progressivement, on va se rendre compte que tous ces personnages qui traversent le siècle, que ce soit en Côte d'Ivoire dans les années 60, que ce soit dans la France des années 50, que ce soit au début du XXe siècle, dans une famille de musiciens, ils appartiennent tous à la même famille, avec l'idée donc que les fantômes qui nous ont précédés, de ceux que nous avons haïs, de ceux que nous avons aimés, de ceux que nous avons perdus, continuent à parler en nous, à notre corps défendant. Comment est-ce que, alors même qu'on a passé sa vie à se dire « jamais je ressemblerai à ma mère », plutôt crever que de lui ressembler un jour, eh bien, vous croisez dans le miroir le pli d'un sourire, ou alors vous allez agir d'une façon ou prononcer une parole qui fait que vous êtes recouvert à votre corps défendant par le fantôme de qui vous a précédé.
Et là, c'est d'autant plus délicat qu'il y a dans cette filiation de la folie. Il y a une grand-mère folle qui d'ailleurs terrorise sa fille, qui est donc votre mère. Donc il y a aussi la peur peut-être de succomber à cette folie qui est presque dans les gènes.
C'est ça, avec peut-être l'idée de quand il y a une folie, une malédiction, on va dire, ou une fragilité, qui se répète de génération en génération, est-ce que tout est joué d'avance? Quelle marge de manœuvre avons-nous? Quelle marge de liberté possible avons-nous quand la maladie et la mort sont présentes comme cela dès l'enfance? Est-ce qu'on peut malgré tout essayer de mener une vie aussi vaste que possible et aussi joyeuse que possible?
Mais les fantômes, il faut aussi s'en débarrasser, Alex Baupin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pendant longtemps, il y a eu ce drame dans votre vie que vous avez évoqué, bien évidemment, la disparition de votre compagne. Mais aujourd'hui, on est en 2019, est-ce que c'est quelque chose qui continue à vous accompagner ou est-ce que vous êtes dans le dépassement de ça?
Moi, j'ai pas l'impression qu'il faille se débarrasser. Enfin, personnellement, j'ai pas l'impression qu'il faille se débarrasser de ces fantômes. Qu'au contraire, le fait qu'ils nous accompagnent peut être extrêmement constructif. Après, moi, j'en ai parlé effectivement dans mes chansons. Il y avait jamais l'intention chez moi quand j'en parle, quand je parle de la mort des gens, de mes proches. Il y a jamais l'intention chez moi de le faire comme une espèce de thérapie ou pour m'en débarrasser. L'idée première est toujours d'écrire une chanson. Ou d'écrire, enfin, vous
comprenez. Et donc de l'offrir
à
quelqu'un d'autre
à d'autres en tout cas, peut-être que eux ça pourra les consoler, mais moi mon intention première c'est toujours d'écrire une bonne chanson quand j'écris sur un sujet. Après il se trouve que c'est plutôt les sujets qui me choisissent que moi qui les choisis, j'ai l'impression, quand j'écris des chansons. Et donc les fantômes, non, je m'en débarrasse pas, ils peuvent ressurgir à des moments totalement inattendus, mais moi je trouve ça plutôt doux de vivre avec des fantômes en réalité.
Alors Sarah Chiche nous propose, il y a plusieurs trames évidemment dans son livre, mais elle nous propose cette relation charnelle très forte avec cet homme, et donc finalement on est face à une sorte de triangle amoureux où il y a Sarah Chiche, enfin en tout cas le personnage au milieu, et puis deux personnages différents. Avoir en simultané deux personnes dans sa vie, Alex Baupin, c'est possible?
Moi, en tout cas, je peux vous dire que c'est possible par expérience. J'en dirai pas plus, mais oui, c'est le cas. Et puis, c'est marrant parce que sur cette histoire de triangle amoureux, qui est pas du tout pour moi, en plus, le cœur du livre, enfin, j'ai l'impression,
non,
en tout cas.
Pour moi, c'est vraiment à la périphérie.
J'ai trouvé, comme je trouve souvent chez des écrivains, des phrases qui pourraient être des refrains de chansons. Ça, c'est formidable, on a envie de lui redire des choses, notamment à un moment donné sur le fait que son régulier, j'ai envie de pas dire comme ça, ne voit absolument rien de ce qui est en train de se passer. Elle dit, tout crève-tant les yeux, qu'il n'y voit plus rien du tout. Et je trouve que c'est un refrain de chanson là-dessus extraordinaire.
Il y a quand même un aspect, c'est que vous lui dites à votre régulier, à Paul, vous lui révélez ce que vous vivez, et là vous prenez le risque de détruire votre famille. Il y a vraiment un moment où on s'imagine que ça va exploser. Est-ce qu'à ce moment-là vous renouez avec la folie des origines?
Vous savez, déjà considérer que ce serait moi, c'est quelque chose qui me place toujours dans un état de sidération, parce que c'est pas de l'autofiction. L'autofiction, ça suppose une subjectivité très assumée. Or, pour moi, j'ai pas de jeu autrement qu'ailleurs dans l'écriture. Je crois qu'au corps de l'écriture. Donc, pour moi, tout ça, c'est juste de la matière. Et ce que je voulais interroger, c'est comment, parfois, au fond, tromper l'autre, c'est pour être fidèle à soi-même. Et par-delà la question d'être fidèle à soi-même, être fidèle à la loyauté d'une famille. C'est-à-dire, au fond, renouer, oui, avec la part la plus primitive, la plus obscure, mais aussi sans doute la plus pure de soi-même et des femmes et des hommes qui nous ont précédés.
Alex Baupin, votre actualité, il faut quand même en parler, c'est ce nouveau titre « Cours camarade » qui évoque bien sûr un des slogans les plus célèbres de mai 68. « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ».
Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sans la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade. Le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades, comme on en crève aujourd'hui.
Estivalitude sur France Inter.
Alex Baupin, Cours camarade, donc un titre extrait de votre album à paraître en octobre, qui a un titre, je trouve, c'est presque du Sarah Chiche, hein, Pas plus le jour que la nuit. C'est un très beau titre, ça sortira en octobre, c'est pas tout de suite. Et c'est, cette chanson, Cours camarade, c'est tout sauf une chanson de combat. C'est quand même.
C'est une chanson sur la désillusion.
Ah bah c'est très fortement. Enfin, oui.
Après moi je pars toujours. C'est pas forcément. On dit c'est une chanson sur les 68 arts. Ça l'est. Je parle d'un fait. Enfin d'événements factuels qui sont la façon dont ces gens qui prétendaient à une révolution ont échoué quelque part finalement et ont abandonné beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, j'espère que c'est plus une chanson sur la désillusion que sur le fait lui-même. Enfin, j'espère toujours que les sujets des chansons sont plus grands que ce qu'elles racontent en réalité. C'est peut-être un peu obscur ce que je dis, mais je crois beaucoup à ça, moi, en fait. Que les faits dont on part, c'est pour parler d'autre chose, en fait, en réalité.
J'ai eu la chance d'écouter l'intégralité de votre album et j'ai eu l'impression qu'il était vraiment irrigué par l'idée d'un espoir déçu.
Bah, c'est la fin
me
du
tronche,
monde.
Me
enfin,
tronche.
Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la fin du monde, ou en tout cas à la fin d'un monde. Donc, forcément, quand on écrit des chansons, c'est difficile de passer à côté du sujet. Moi qui écrivais des choses très autobiographiques avant, je suis de plus en plus en train d'écrire des chansons sur l'état des choses. Et fatalement, la fin d'un monde, c'est aussi la fin de beaucoup d'illusions. Donc effectivement, on est peut-être dans une période dans une période de grande désillusion.
Cours camarade, la défaite est devant toi. Hein, c'est un peu ça que vous semblez dire. Il y a cette phrase terrible, je trouve, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents.
Bah, on en a vu quelques-uns des 68 arts qui sont devenus dans les années 80 des publicitaires. C'est quand même un parcours.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, Sarah Chiche, il y a une part très politique dans votre livre, Les Cent Ténébrés. D'abord, vous-même, enfin, le personnage, pas vous, le personnage qui va à Vienne, se mobilise pour les migrants. Au départ, il y a cette mobilisation pour les migrants. C'est important pour vous ?
Ah oui. Ça part aussi de la question d'une honte. C'est-à-dire que, comme le dit fort bien Alex Baupin, oui, est-ce qu'on assiste à la fin du monde, fin d'un monde ? En tout cas, nous sommes dans le désastre du monde et nous appartenons à ce désastre. C'est-à-dire que nous sommes pleinement responsables. Nous ne sommes pas uniquement des victimes de ce désastre, mais dans chacun des actes qu'on pose, on a une part de responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est écrivain et qu'on assiste à ce désastre ? Pour moi, c'était très important de pas rester, pardonnez-moi, le cul sur mon fauteuil, mais d'aller voir un jour, d'aller me cogner au réel des choses. En l'occurrence, ce moment de l'automne 2015 où subitement l'Autriche et l'Allemagne ont ouvert les frontières à des flots de réfugiés et on a assisté à une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants débarquant à gare somnambulique démantibulée dans ces gares autrichiennes et accueillis par des gens qui, pour certains, des Autrichiens, qui avaient connu le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Donc, étaient-ils là, ces septuagénaires et ces octogénaires qui ont accueilli les réfugiés en gare de Vienne en 2015 pour réparer...
Pour expier.
On peut effectivement se poser la question.
Il y a un autre aspect dans votre livre qui est important, je crois, c'est que le compagnon de votre personnage, Paul, c'est un scientifique, mais un scientifique d'un genre particulier, puisqu'il prédit l'effondrement de l'humanité et il multiplie les conférences dans lesquelles, on peut dire, il terrorise ses auditoires. Il y a une phrase très belle, il dit « coulera moins de temps entre le dernier des hommes et nous qu'entre nous et Christophe Colomb ». Alors à ce propos-là, je voudrais vous faire écouter ce que dit l'écologiste Yves Cochet, qui justement a décidé récemment de se retirer du monde.
Avec ma fille, nous avons acheté cette maison voilà une treizaine d'années parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général, systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030, hein, je ne suis pas à 5 ans près. En tout, ça fait 7 hectares. On dit, mais bon, si tout s'effondre, avec qui je vais vivre ? Eh bien, c'est pas avec votre groupe Facebook où il y a des Québécois et des Chinois. Hein, parce que ça sera fini, il n'y aura plus d'Internet en 2035. C'est avec vos voisins géographiques. Et donc les voisins géographiques, eh bien c'est les paysans, il y en a un d'ailleurs qui est là qui vient nous aider pour parce qu'il a un petit tracteur, lui, pour aménager le terrain. S'entraider ou s'entretuer, ça se prépare.
Alex Baupin, vous y croyez à l'imminence de la fin du monde ? Là, Yves Cochet nous dit en 2035, Internet, ça va s'effondrer, il n'y en aura plus.
Mais bien sûr que j'y crois, et en même temps on est dans un état assez étrange parce qu'on y croit mais on est incapable de le voir. Enfin, on a beau y croire et on a beau avoir toutes les preuves qu'intellectuellement ça va arriver et que c'est absolument inévitable, je crois que même en sachant ça, on est incapable d'affronter quelque chose d'aussi grave. Enfin, on continue à sortir des livres, à sortir des albums, à venir faire des émissions de radio, alors que tout ça... Et puis, à avoir des débats complètement dérisoires sur des choses qui semblent, au regard de cette fin du monde, absolument...
On danse sur l'apocalypse.
Ah bah oui, c'est la danse au-dessus du volcan. Et je pense que, de toute façon, on est incapable de le voir, parce que sinon, on deviendrait fou, en réalité.
Mais Sarah Chiche, des scientifiques qui prédisent la fin de tout, il y en a toujours eu. C'est même une des marques de nombreux scientifiques de nous annoncer la fin du monde.
Oui, puis on peut penser aussi aux peurs de l'an 1000, vous savez, où tout à coup la menace d'une apocalypse était là. Mais là, je crois qu'on assiste tout de même à une forme, des formes inédites de mal. Et c'est ce dont parle Paul dans Les Enténébrés, c'est-à-dire la certitude que face à l'imminence de la fin des temps, il y en a qui vont en retirer un bien suprême. Pensons à ce que fait Trump, par exemple, ou ce que fait Bolsonaro, qui continue à déforester, alors qu'on sait que c'est une catastrophe, qu'il y a une catastrophe, un cataclysme environnemental sans précédent qui est en train d'avoir lieu. Eh bien, ces personnes continuent à écraser les plus faibles, les plus démunis, et à s'en mettre plein les poches. C'est comme les frères Koch, ces multimilliardaires, ils ont une fortune de 40 milliards de dollars et ils continuent à forer des oléoducs alors que ça détruit tout l'environnement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour une certaine forme d'insurrection. Par exemple, ces personnes, les Valve Turners, qui sont allés faire aux États-Unis, qui sont allés, alors qu'ils risquaient d'être arrêtés, fermer les pipelines à visage découvert, en plus, en prenant le risque d'être attrapés. Donc, c'est vrai qu'il y a là une forme d'insurrection et de violence, mais qui est peut-être légitime face aux horreurs de notre monde.
Alex Baupin, dans votre futur album à paraître en octobre, il y a aussi une chanson qui a un titre qui m'a marqué, qui se nomme Orlando, et qui fait référence à cet événement-là.
Vers 2h du matin, armé d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing, Omar Mateen s'introduit dans le Pulse, une boîte de nuit très fréquentée par la communauté homosexuelle. L'homme tire à l'aveugle sur des clients, puis retient les autres en otage. Le bilan fait état de 50 morts et de 53 blessés. Des familles sans nouvelles de leurs proches, à court.
50 morts en 2016 parce qu'on est homosexuel. C'est ça qui vous a frappé?
Oui, et puis je... En fait, c'est une chanson que j'avais écrite avant de faire le Bataclan, lors de ma dernière tournée. Je refaisais le Bataclan à un moment donné où c'était absolument pas anodin. D'autant plus que mon tourneur était le gérant du Bataclan. Donc je sais que pour lui c'était important. C'est pour lui que je l'avais fait aussi. Et j'avais ouvert ce concert par cette chanson, qui raconte un attentat qui se situait ailleurs. Mais...
Dans une salle de spectacle, au fond.
Voilà. Et oui, c'était important. Après, moi, en écrivant cette chanson, ça va sembler très prétentieux, mais je pensais à des chansons engagées qui sont aussi des chansons d'amour. Et je pensais notamment sur cette chanson, ça peut sembler très loin, mais à Göttingen de Barbara, qui est aussi une chanson.
Ah ouais.
Mais qui est aussi une chanson qui parle d'un endroit, en fait. Ouais. Et je trouve, et à chaque fois que j'écris une chanson qui parle d'un endroit, j'essaie de me référer à des grands anciens. Et je trouve que c'est très prétentieux de ma part, parce que j'adore aussi Barbara comme Sarah. Mais j'avais cette idée qu'on pouvait écrire une chanson engagée qui soit pas un tract. Et c'est ça que j'ai essayé avec cette chanson-là, en fait.
House of the rising sun.
Bonheur, bonheur, bonheur de réentendre la voix d'Eric Burdon, le chanteur des Animals, dans The House of the Rising Sun. Ce morceau, bien sûr, était sorti initialement en 1964. Et il a été, bien entendu, vous le savez tous, repris par Johnny Hallyday sous le titre Le Pénitencier.
Christophe Bourseiller, Estivalitude, sur France Inter.
Sarah Chiche, il y a un cinéaste sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Vous lui avez même consacré un essai en 2015 qui s'appelait Éthique du Mikado. C'est Michael Haneke. Pourquoi cet intérêt théorique pour Michael Haneke?
Parce que nous partageons sans doute l'idée que nous sommes tous responsables de nos actes. Et il y a cette idée dans les films de Michael Haneke qu'on n'est pas uniquement des victimes du mal, mais qu'on peut être aussi des agents du mal. Dans Les Enténébrés, il y a notamment la petite Ève qu'on croise d'abord comme mère de Sarah dans la première partie du livre. Et tout à coup, dans la deuxième partie du livre, on la retrouve en Côte d'Ivoire, en adolescente, sauvage, farouche. Et on s'aperçoit que cet enfant, parce qu'elle a été victime elle-même de choses abominables, va se mettre, autant par haine que par désespoir, à commettre le pire.
Le titre « Les Enténébrés » provient du livre « La pianiste » d'Elfriede Jelinek, qui a été adapté au cinéma par Michael Haneke.
Absolument, c'est un mot qui m'a beaucoup impressionnée. À un moment donné de « La pianiste », Erika Kohut, le personnage principal, dit à celui qui va devenir son amant « Mon père est mort à l'asile de Steinhoff, tout enténébré. » Et quand j'ai lu Jelinek la première fois, j'étais si impressionnée par la lumière noire de ce mot qu'en quelque sorte, c'est devenu le titre de mon livre, le titre avant même que le reste puisse s'écrire.
Alors, La pianiste raconte l'histoire d'une relation sadomasochiste, le livre d'Elfriede Jelinek et le film de Michael Haneke. Et dans votre livre Les Enténébrés, l'héroïne, la relation qu'elle noue avec cet homme beaucoup plus âgé, elle est quand même irriguée à un moment donné par le sadomasochisme, si j'en juge par une lettre qu'elle reçoit, en tout cas à un moment donné.
Je me suis beaucoup amusée à pasticher une littérature autrichienne que j'aime beaucoup, notamment Jelinek. Et chez Elfriede Jelinek, il y a ce moment totalement dingue et qui vire au grand guignol de scènes sadomasochistes. Et donc, que j'ai totalement subverti dans Les Enténébrés pour rendre hommage à cette forme de littérature autrichienne non psychologisante que j'aime beaucoup, avec tout de même cette idée que l'amour charnel, dans sa pointe extrême, peut nous conduire parfois, quand les deux sont consentants, j'insiste, bien évidemment, à des choses tout à fait extrêmes, à des choses qui pourraient paraître insensées, mais qui ont trait à la façon dont, au cœur de la vie même, de l'amour charnel, eh ben, la mort peut s'inviter.
Alex Baupin, vous avez l'air d'accord. Hein,
j'acquiesce totalement. J'en ai écrit des chansons là-dessus, des chansons SM, puis il en existe tellement des chansons SM, de Ne me quittez pas. Enfin voilà, c'est vraiment. Mais sur l'amour charnel, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec la précaution qui consiste à parler de deux personnes consentantes, mais à partir du moment où il y a consentement mutuel, je trouve que tout peut se passer.
C'est
formidable de le raconter en plus.
Vous êtes vous aussi un compositeur de musique de film,
oui.
Alex Baupin, vous avez évidemment beaucoup travaillé avec Christophe Honoré et vous avez beaucoup collaboré aussi avec Fanny Ardant. Alors vous l'avez fait chanter, vous avez chanté avec elle, il y a une fascination de votre part pour Fanny Ardant ou c'est simplement une amie?
Non, c'est une rencontre et par cette rencontre on est devenus amis. La première fois que je l'ai rencontrée, je lui faisais chanter une chanson, elle faisait un monologue au théâtre qui s'appelait L'année de la pensée magique d'après John Didion,
ouais.
et je lui avais écrit une chanson pour ça et puis on est devenus très amis et moi j'adore les actrices qui chantent, j'adore la voix de Fanny et faire chanter, enfin quand on a la chance de faire chanter Fanny Ardant, de chanter en duo avec elle, puis en plus elle est très preneuse de ça. C'est quand même dommage de s'en priver, quoi.
Eh ben justement, je vous ai demandé à vous, comme à Sarah bien sûr, le son qui vous résumait et vous m'avez dit le son qui me résume, c'est ça.
Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde.
Non, j'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent... ne me quitte pas. Ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien... sans amour, on n'est rien du tout.
Alors c'est vraiment un extrait qui vous ressemble terriblement, Alex Maupin.
C'est un peu banal parce que la scène elle est très connue, mais alors...
C'est la femme d'à côté de François Truffaut avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant.
Voilà un film sur la passion aussi qui va jusqu'au bout de son sujet. Enfin moi je trouve personnellement. Et puis voilà, elle parle des chansons, puis c'est écrit d'une telle façon que les chansons sont bêtes. D'ailleurs non, elles sont pas bêtes. C'est exactement ce que je pourrais dire de plein de chansons que j'adore et qu'on peut a priori trouver un peu triviales, quoi.
Alors Sarah Chiche, vous, le son qui vous résume, c'est un souvenir traumatisant, qu'on a tous eu d'ailleurs, c'est un souvenir collectif traumatisant, c'est celui d'une petite Colombienne prisonnière de la boue qui avait été filmée par toutes les télévisions en 1985. On va l'écouter quelques instants.
Maman, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude.
Pourquoi vous avez choisi ce document qui est un peu traumatisant, moi, je trouve?
Oui, j'avais 9 ans. Et...
Ça vous résume, ça?
Oui, parce qu'on est aussi constitué à partir de choses qui font effraction en nous dans l'enfance. Et je me souviens très bien, j'avais 9 ans, j'étais avec ma mère, on regardait les infos. Et il y avait eu une éruption en Colombie et des coulées de boue qui avaient ravagé des villages entiers. Et il y avait cette petite jeune fille de 13 ans, Omaira, qui pendant 3 jours a agonisé
dans
la boue.
C'est elle qu'on vient d'entendre.
C'est elle que l'on vient d'entendre. Et j'étais enfant, mais je me suis d'emblée posé la question de pourquoi filme-t-on ça? Pourquoi est-ce qu'on nous montre cet enfant en train d'agoniser pendant 3 jours? Et pourquoi ça me résume? Difficilement résumable, j'aime pas être assignée à résidence, mais au fond, il y a des années après avoir vu ce reportage, il y a 3 questions qui me guident dans mon quotidien. La première, c'est comment est-ce qu'on fait pour rester digne et courageux quand on affronte les pires souffrances, quand on est aux portes de la mort, comme cette petite fille qui est restée digne jusqu'au bout. La deuxième, c'est est-ce qu'on a le droit d'être heureux alors qu'il y a tant de misère dans le monde? C'est dur de ne pas se sentir coupable. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette culpabilité? Parfois on en fait des chansons, parfois on en fait des films, parfois on en fait des livres. Et puis la troisième, c'est si on choisit envers et contre tout férocement d'aimer la vie, comment dès lors, parce qu'on a tous notre part de responsabilité, comment venir en aide à plus faible et plus démunis que soi? Et ça me dévore, ça me bouffe, mais c'est ce qui me fait me lever matin après matin aussi.
France Inter. Estivalitude. Christophe Bourseiller.
Is folding up as the memory kisses you goodbye. It's better to live with melody and heaven on its tongue. Isn't that right? There's a definite vibe. You can't be pure.
My name in the corner.
Fixture.
Elle a 29 ans, elle est néo-zélandaise, mais elle vit au Pays de Galles. C'était Aldous Harding interprétant Feature Picture, une programmation relax transat de Muriel Pérez.
Vous avez dit,
vous avez dit,
ah non, vous avez dit,
mais vous m'avez rien dit.
Bah, c'est vous qui me l'avez dit.
On nous traite tout le temps de bobos parisiens, et d'ailleurs je m'en fous, parce que je préfère être un bobo parisien qu'un vieux con de droite. Voilà, c'est là, je commence à devenir
c'est
vulgaire.
C'est dit.
Je préfère être un bobo parisien qu'un vieux con de droite, dit Alex Baupin.
Oui. J'ai pas compris à quel moment, en fait, la réaction était devenue quelque chose de progressiste, mais il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, lors d'une inversion des valeurs. On nous a expliqué que c'est tout ce qui a trait avec un discours qui parle des bobos, du monde des bisounours, qui nous explique que l'antiracisme, c'est quand même une espèce d'idéologie un petit peu ridicule. On parle de droit de l'homisme aussi. C'est des gens qui mettent beaucoup de isme au bout des mots pour les vider de leur contenu, je trouve. Et moi, à un moment donné, des gens qui sont amoureux de la culture, qui préfèrent l'ouverture à l'autre que la fermeture et tout, je comprends pas pourquoi ça devrait être moqué et considéré comme quelque chose de ridicule, voilà. Et c'est pas parce que moi, en l'occurrence, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc je suis très à l'aise avec ça, mais je comprends pas pourquoi aussi on moque des gens qui ont des combats. On moquait Emmanuelle Béart quand elle était dans l'église Saint-Bernard et qu'elle allait s'occuper de, voilà. On moque, Balasco quand elle se bat pour le droit au logement sous prétexte que c'est des gens qui ont réussi et qui ont de l'argent. Et je comprends pas non plus ce discours-là, en fait. Et il m'agace profondément.
Voilà. Sarah Rachid, vous êtes d'accord?
Oh oui, je ne peux qu'être d'accord. Et ce qui me glace, c'est ce mépris pour la culture on sait où ça peut conduire, hein, on l'a déjà vu, mais au populisme le plus ignoble et tout ça, pardonnez-moi, mais je pense que ça finit par faire le lit de l'extrême droite en sous-main.
Évidemment.
Ce mépris, je me souviens, j'avais 20 ans et je me suis retrouvée totalement par hasard parce que ma grand-mère paternelle m'avait emmenée là dans un déjeuner avec où il y avait des banquiers d'affaires et à un moment donné il y a un homme qui me dit et vous mademoiselle que voulez-vous faire dans la vie, je dis je veux être écrivain. Ah, comme c'est amusant. Déjà parce que c'était une femme qui disait ça, hein, ça ne pouvait relever que du divertissement, bien évidemment, et en aucun cas de la nécessité vitale. Et puis voilà, hein, on écrit comme on fait de la broderie. Il y avait là un mépris. Et il y a des gens aujourd'hui qui se vantent de ne pas avoir un seul livre chez eux, hein, qui en font une espèce d'éthique, de posture. Dégueulasse.
Après, la question, c'est comment répondre à cette injustice. Parce que vous, par exemple, Alex Baupin, je trouve que vous êtes un chanteur profondément politique, mais pas un chanteur engagé. La difficulté, je dirais, c'est d'évoquer des sujets de société sans apparaître comme un militant.
J'ai l'impression que de raconter les choses, c'est déjà un engagement quand on est chanteur, parce que je trouve, il y en a qui le font quand même, que tous les chanteurs le font pas. Comme après, c'est ce que je dis depuis le début, la question c'est quand même d'écrire une jolie chanson, une bonne chanson, et de pas faire un tract. Effectivement, se pose la question de comment on fait de ça quelque chose d'artistique ou de poétique. J'aime pas parler de poésie quand on parle de chanson, mais enfin, comment on fait une bonne chanson avec tout ça. Et donc, engagé et pas militant, ça me va, même si ça semble un peu mou.
Mais vous avez dit, c'est difficile d'écrire des chansons politiques et engagées. Ce qui n'est pas dur, c'est d'en faire des mauvaises.
Ouais.
Et vous avez ajouté, une chanson, ce n'est pas un tract.
Non, moi je pense ça profondément, qu'il faut toujours qu'il y ait le filtre de la création et se poser la question de à partir de quel moment on est face à, c'est un grand mot pour les chansons, mais on est face à une œuvre d'art et pas à une espèce de chose revendicative qui n'a aucun intérêt ni poétique ni musical.
Le rôle du chanteur, c'est un peu comme l'écrivain, c'est d'instiller le doute, c'est de murmurer à l'oreille des chevaux, si je puis dire.
Je sais pas, c'est compliqué pour moi de parler de mon rôle parce que tout ça peut sembler toujours très prétentieux. Les choses viennent naturellement. Quand je disais que c'est les sujets qui me choisissent, moi il se trouve que sur cet album, il y a 10 chansons, il y en a la moitié qui sont des chansons sentimentales et l'autre moitié qui sont des chansons qui parlent plus directement de l'état du monde. Peut-être qu'à un moment donné, j'en ai ressenti la nécessité parce qu'on peut pas être face à cette catastrophe qui avance et faire comme si rien ne se passait. Donc c'est ça qui m'est arrivé, mais c'est totalement instinctif. C'est difficile pour moi de l'intellectualiser, en fait.
Alors Sarah Chiche, vous avez une question à poser à Alex Baupin et cette question, elle est à propos d'une chanson d'Alex que vous avez citée au tout début de notre émission d'Estivalitude. C'est une chanson qui s'appelle Les Voilà. Je voudrais qu'on en écoute peut-être quelques instants.
Le voilà, sa longue déchéance,
dévore jusqu'au noyau le fruit de nos enfances et les derniers vestiges de nos empires légaux s'effondrent dans les brumes d'un vieux rêve fluo. Le voilà, l'ultime barricade. La dernière sentinelle est tombée bien malade. Elle s'en ira ce soir et ne restera rien. Ni papa, ni maman, entre nous et la fin. Le voilà, l'ultime barricade. Le voilà,
l'ultime barricade. Alors Sarah Chiche, qu'est-ce que vous vouliez demander à Alex Baupin en lien avec cette chanson « Les voilà » ?
Oui, il y a bien des façons de comprendre cette chanson, parce que ce texte est plus grand que nous, d'une certaine façon. Je l'ai entendu comme quelque chose qui parle de la mort des parents.
C'est exactement ça, oui, c'est ça.
Et comment aussi peut-être les objets qui nous entourent, les objets des maisons, de famille, se retirent en eux-mêmes et deviennent aussi mat et froid que... Ils sont frappés de la même matité, de la même froideur que les êtres qu'on a aimés et qui viennent de mourir. Et comment est-ce qu'on peut continuer à vivre malgré tout avec cela ? Alors ma question, c'est... Il y a le temps de l'écriture, il y a le temps de la composition. Pour un écrivain, il y a le temps de la publication. Pour un chanteur, il y a le temps de la première fois où on va chanter.
Oui, du concert, bien sûr.
Comment ça s'est passé la première fois que cette chanson, vous l'avez chantée ?
C'est une longue question. Hein.
Non, c'est toujours c'est une question tout à fait légitime. Quand on écrit des chansons qui nous sont aussi personnelles et qui sont des chansons dont on peut considérer qu'elles sont difficiles à livrer en public, par exemple, comment on les chante ? Mais en réalité, moi... toujours considéré qu'être chanteur, c'était aussi être un petit peu un professionnel. Ça va sembler une réponse extrêmement froide. Moi, j'ai toujours été extrêmement amusé par les chanteurs qui sont très émus par les chansons qu'ils chantent parce que j'y crois pas une seconde.
Alors voilà, c'était ça ma
question. Moi, je crois que quand on livre la chanson au public, on la livre comme un professionnel. Ça veut dire qu'on la chante, qu'on essaie de l'incarner, qu'on essaie d'être émouvant, mais qu'on n'est pas ému soi-même par sa propre création. Sinon, ça veut dire qu'on est, soit qu'on s'aime tellement qu'on se trouve extrêmement émouvant et je trouve ça.
La jouissance narcissique.
C'est comme un acteur qui pleurerait vraiment et qui serait vraiment ému quand il incarne quelqu'un qui est ému. Moi, je crois que quand on écrit la chanson, on le fait sincèrement, mais quand on la livre aux autres, on fait une performance qui est l'équivalent de la performance d'un acteur et qu'on n'est pas ému par soi-même, ou alors c'est qu'on est d'un narcissisme, déjà quand on est chanteur, on l'est, mais qui dépasse l'entendement pour moi, en réalité.
Alors, Alex Baupin, vous avez vous aussi une question pour Sarah Chiche qui est plus courte, je vous écoute.
Elle est plus courte, mais je pense qu'elle est
assez vaste. Elle est complexe.
Moi, j'aurais voulu, parce que j'imagine qu'elle sait, que Sarah m'explique simplement ce que ça veut dire la saudade.
Ah, oui. C'est un mot portugais qui est intraduisible. J'ai beaucoup travaillé sur Fernando Pessoa, qui a travaillé cette question de la nostalgie. Et c'est une nostalgie particulière, la saudade, c'est une nostalgie pour quelque chose que l'on n'a pas même vécu. Hein. Quelque chose qui, au fond, a été perdu depuis toujours et pour toujours. Quelque chose dont on ne peut tracer les contours, par exemple... la mort d'un parent qu'on a perdu si jeune, que du coup on se souvient pas même de son visage, ni même de la voix qu'il pouvait avoir, ni même de sa façon de rire. Bon, bien évidemment, c'est quelque chose qui me hante s'agissant de la mort de mon père. Je me souviens pas de son visage, je me souviens pas de sa voix, je me souviens pas même de son rire. Eh bien, c'est peut-être aussi pour ça que je suis devenue écrivain, à partir de ce silence, à partir de cette nuit, de cette absence, de cette saudade, donc.
Très clair.
Des très belles réponses. Il y a une très belle phrase de Sarah Chiche, on veut peut-être terminer là-dessus. Vous dites dans votre livre « L'amour fou est un des derniers bastions d'insurrection possible. »
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors je vous rappelle quand même que l'émission s'appelle Estivalitude et que nous sommes en vacances, que c'est l'été, c'est le mois de juillet. Et Sarah Chiche, je vous ai demandé de me raconter, de réfléchir aux vacances qui vous ont le plus marqué. Vous m'avez dit l'été 1986. Pourquoi ?
Oui, j'avais 10 ans. Déjà, je n'aimais pas l'été. J'aimais uniquement l'été parce qu'il préfigurait l'automne. Je m'ennuyais un petit peu en vacances, à côté de ma mère qui me forçait à lire. Et puis elle-même était... on était assises toutes les deux dans l'herbe et je la vois tout à coup, le visage percuté de lumière, ravagé de par les larmes et par la joie aussi. Et à la main, elle a un livre, dessus un titre et un nom d'auteur, Les Noces Barbares, Yann Kefelek. Et là... considérant le pouvoir de la littérature et ce que ça faisait à ma mère, la façon dont ça la faisait vivre, la façon dont ça l'émouvait, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose d'immense, quelque chose d'absolument vaste qui m'a impressionnée. Et c'est, oui, par amour pour ce visage aussi, j'ai parlé de mon père, mais il y a ma mère aussi, il y a ce visage qu'elle avait, ce visage de l'été 86.
Et la découverte de la littérature, d'une certaine façon, grâce à Yann Kefelek. Alors Alex Baupin, vous détestez les vacances, vous l'avez dit, c'est très franc, vous avez quand même un souvenir écossais.
Oui, j'ai un souvenir écossais parce que moi je suis comme Sarah, elle me fait rire quand elle dit que l'été annonce l'automne et c'est ce qu'elle aime bien en lui. Moi, l'été m'angoisse terriblement, les jours qui rallongent, le fait qu'il fasse ce jour
cette chaleur, tard, cette chaleur entêtante.
La chaleur que je ne supporte pas. Enfin, moi, dès que l'automne arrive et l'hiver encore plus, je suis très, très réconforté, en fait. Je trouve que ce sont des saisons plus réconfortantes que ce qu'on imagine. Et donc, les vacances, moi, en plus, qui ai de la chance de faire un travail que j'adore et dont je rêvais, je suis pas forcément fou de partir en vacances. Mais quand j'ai eu 16 ans, je suis parti en camp de vacances pendant 3 semaines en Écosse. J'en ai un souvenir d'une grande liberté parce que on était encadrés, mais un peu livrés à nous-mêmes quand même. Donc on allait boire des bières dans des pubs, on fumait des clopes, on s'installait des tentes dans lesquelles on dormait. Et puis c'était l'Écosse, donc c'était pas vraiment l'été. Il a plu la moitié du temps.
Et c'est l'avantage de l'Écosse, il fait
très
mauvais.
On était en pub, oui. Il a plu la moitié du temps, et du coup c'est un beau souvenir de vacances parce que c'est presque des vacances d'automne en été finalement.
Bah moi je pars pas en vacances puisque je fais une émission qui se passe pendant les vacances, ça me fait du bien d'avoir des gens qui sont un petit peu solidaires avec moi. En tout cas c'est vrai que l'Écosse c'est une région absolument sublime, on n'en parle jamais et très peu de gens prennent leurs vacances en Écosse.
C'est très très beau, j'en ai un souvenir.
Vous étiez où ?
On a fait un tour en fait, on a fini à Édimbourg où je me rappelle on s'était fait casser la gueule par des Écossais.
Ah oui, c'est un bon souvenir alors.
Bah non, mais c'est des souvenirs formateurs. Enfin moi je m'étais un peu planqué évidemment parce que j'étais pas très costaud. Mais en tout cas, j'en ai un souvenir extraordinaire parce que c'est des paysages incroyables effectivement.
Ah ben écoutez, merci infiniment Sarah Chiche et Alex Baupin, vous avez tous deux fait preuve d'énormément d'estivalitude et je vous en sais gré. Sarah Chiche, votre roman Les Enténébrés est paru donc aux éditions du Seuil. Alex Baupin, votre single Court Camarade vient de sortir. Il sera suivi début octobre d'un nouvel album, Pas plus le jour que la nuit. Vous démarrez par ailleurs une tournée française le 19 octobre et vous produirez à l'Olympia, je le signale, oui. Vous le savez peut-être déjà, le 20 novembre. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Estivalitude est réalisée heureusement tout l'été par Juliette Medevielle. L'émission a été préparée par la fine équipe Saad Merzak, Pierre Goulencourt et Astrid Landon, avec à la technique aujourd'hui Guillaume Roux. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr lundi à 9h sur France Inter. Et nous recevrons le physicien philosophe Étienne Klein et le journaliste Morad Aïtabouche. Ah, je crois que la liaison est établie avec Laurent Delmas qui se trouve tout en haut du beffroi de Béthune.
Laurent, très, très mal,
vous me recevez Laurent?
Non, je vous entends très mal, je vais être obligé de prendre le micro moi-même.
Je vous en prie.
Non, franchement, je n'entends pas.
Il fait pas trop froid là-haut?
Je ne vous reçois pas du tout. Les auditeurs ne vous entendent pas, Christophe, c'est dommage. Moi j'ai donc quelque chose à vous dire, c'est que dans Ciné qui chante, on va s'intéresser aux années 50. Ciné qui chante, l'émission que connaît très bien Alex Baupin, on l'a reçu l'an dernier et c'était un très beau souvenir.
Merci, moi aussi d'ailleurs.
Vous aussi, on y écoutera, ça fait deux fois que vous le dites. On y écoutera Sophia Loren, Marlène Dietrich, Nat King Cole, Juliette Gréco, Christiane Legrand, Elvis Presley dans des films, tenez-vous bien, de Ophuls, Lang, Aldrich, De Sica, Denen et quelques autres. Voilà, c'est fait.
Ça va être génial.
Je vous rends le micro, je vous rends le casque. Merci Christophe.
À bientôt à Béthune. Hein.